Je me trouve avec deux comédiens représentants de la Suisse romande, Roger, je pensais en mettant en scène, Yen Li, et voilà, quel trouble, et Adrien Guigax. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Nous sommes dans la petite salle du théâtre de Carouge, Jarcara, pour justement le chant du cygne mis en scène par Robert Bouvier. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet? Qu'est-ce qui vous a séduit dans les personnages que vous interprétez?
Oh, plein de choses. D'abord la pièce, le chant du cygne, et le projet qu'on a fait à partir de la pièce de Tchekhov, de faire une espèce de fantaisie, un hommage au théâtre, un hommage à tous les gens du théâtre d'ailleurs, pas seulement au théâtre, aux auteurs, mais aux techniciens, à la lumière, au son, etc. Et de répondre, on voulait répondre aussi aux questions que nous posent souvent les spectateurs à la fin d'un spectacle. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez le trac? Comment vous apprenez vos textes? Qu'est-ce que vous faites si vous avez un trou de mémoire, etc., etc. Donc, à partir de la pièce de Tchekhov, on a dérapé sur des tas de problèmes qui peuvent se poser au théâtre et comment on les résout. Et ça, d'une façon, on voulait le faire d'une façon ludique. C'est pas du tout didactique. C'est pas du tout un enseignement, un documentaire sur le théâtre. Il fallait que tout passe par le rire, par le plaisir.
Et Adrien.
Et moi, qu'est-ce que c'était la question? Qu'est-ce qui nous a
séduit dans le...
Ouais, bien sûr. Ben, déjà, c'est pas souvent, en tout cas pour un jeune comédien, qu'on vient vraiment nous chercher en disant je veux faire une pièce avec toi et avec Roger Yen Li. Donc vraiment, c'est Robert Bouvier qui est venu nous chercher, nous deux, qui voulait monter ça avec nous deux. Donc déjà ça flatte l'ego, c'est pas mal. Mais en plus, on sait qu'on va être entre... non, c'est important, non, aussi. Mais surtout qu'on sait que...
L'estime, c'est important, l'estime.
Voilà, on estime. Mais ça nous met aussi une grosse responsabilité sur les épaules. Mais c'est aussi un grand plaisir... Ouais, Robert, on ne se connaissait pas, Roger et moi, mais Robert a pensé qu'on allait s'entendre et qu'on allait réussir à trouver cette complicité. Mmh. Et pour moi, c'est vraiment un des éléments essentiels de ce métier. C'est le plaisir d'être avec son partenaire sur scène, la complicité, le jeu. Et c'est ce qu'on a cherché tout de suite depuis le premier jour de répétition, Roger et moi. Même si en création, on était entouré par toute une équipe compositeur, évidemment l'éclairage, son, tout ça. On sait qu'après, en tournée, on est, même si on tourne avec les comédiens, avec les techniciens, sûr, sur scène, on est les deux. Puis c'est ce que les gens viennent voir. C'est avant de voir une histoire, avant de venir chercher des émotions, ils viennent voir le jeu et la complicité entre deux personnes. Et puis et aussi de chercher cette complicité entre deux comédiens de générations différentes, c'est quelque chose qu'on nous offre pas souvent dans notre métier. Donc ça, c'était un grand plaisir de découvrir ça.
Ah oui, c'est aussi une chose qui me titillait, parce que dans la pièce de Tchekhov, il y a le vieux comédien qui est enfermé dans le théâtre sur scène,
et
il y a son comparse. C'est le vieux souffleur qui dort dans les loges, etc. etc. Mm-hmm. Et là, Robert proposait que justement, on mette face à face deux générations, le vieux et le jeune. Mm-hmm. Et moi, ça m'intéressait beaucoup aussi de voir de quelle manière on allait travailler ensemble et de quelle manière Adrien inventait les choses. Parce que lui a une formation différente de moi, une formation de comédien aussi, mais de comédie musicale. Donc, pour introduire tout ça dans le spectacle, c'était une longue recherche pendant toutes les répétitions. D'ailleurs, souvent, c'était un peu laborieux, parce que justement, pour passer d'une chose à l'autre, ça devenait un peu explicatif, le son, etc. etc. Et alors, on disait, ça ne va pas, quoi. Il faut trouver autre chose. Il faut que tout passe, dans le jeu. Et alors, pour moi, c'était intéressant aussi de travailler avec Adrien, parce qu'il y a une manière de percevoir les choses un peu différente quand même, forcément.
En tout cas, à vous regarder tous les deux, à vous entendre parler, on sent cette complicité, elle est vraiment tangible.
Oui.
Et par contre, est-ce qu'il y avait aussi une importance de la passation, une filiation, puis aussi la passation du flambeau entre vous deux?
Bon, je sais pas. Je sais pas. Vous savez, on me demande souvent quel conseil vous donneriez à de jeunes comédiens. Je dis, moi, j'ai pas de conseil à donner.
Regarde le lustre et articule.
Oui, regarde le lustre et articule. Oui. Des choses. C'est comme le tai chi, par exemple. Les gens qui enseignent le tai chi, ils parlent pas. Les gens regardent comment ils font, mais ils donnent pas de consignes, rien. Et puis on apprend en regardant. Moi, je me souviens quand j'ai fait mes études de théâtre au cours Simon à Paris, j'allais voir plein de films. En plus, j'étais encore dans la tradition Stanislavski et tout ça. Alors j'allais voir tous les films de Kazan, tous les films de l'Actor Studio et tout ça. Et c'est en regardant. C'est en regardant qu'on apprend.
Voilà, donc il y a quand même il y a cette forme de transmission, elle est là quand même. En effet, Roger, c'est pas un professeur de théâtre, mais c'est mon collègue et mon partenaire, mais ça veut pas dire que j'apprends pas de lui et tous les, enfin, c'est vraiment un plaisir d'être sur scène avec lui, de voir jouer, de voir.
Oui, on apprend les deux, hein, des choses de l'autre. Et puis, ce qui est bien aussi dans les répétitions de ce genre de spectacle, et puis même après les représentations, c'est qu'il y a... Il y a je me rappelle, Benno Besson disait il faut absolument que les comédiens gardent une certaine naïveté. Pas taré, hein, pas, mais que la naïveté, pour lui, c'est l'ouverture, c'est-à-dire que il faut regarder ce que font les gens comme si c'était la première fois qu'on les voyait et vice versa. J'avais fait un spectacle avec Serge Merlin qui s'appelait un pinget qui s'appelait, je sais plus, Abel et Bella. C'était deux comédiens aussi qui parlaient de théâtre et puis qui inventaient sur le plateau. Et là, c'était un peu le même genre de complicité parce que on se passait le relais. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout le temps quelque chose. Il faut être là toujours présent, mais pas forcément être là tout le temps à faire des choses. Et on regardait ce que faisait l'autre. Comme quand, par exemple, mon truc pour le moment, c'est que j'ai froid aux pieds, et puis il y a tout ça, et puis il y a tout ça. Et Adrien raconte encore tout ce qu'il pense pendant qu'il joue, etc., etc. Moi, je regarde. Ouais. Je regarde, et puis je me marre. C'est comme si je découvrais ça pour la première fois. Et ça, c'est important. Je trouve que c'est vraiment important, parce que très souvent, il n'y a pas l'écoute dans les spectacles. Moi, j'ai fait un spectacle où je m'étais brouillé avec le metteur en scène. Il avait dit, je ne fais pas de mise en scène, je laisse les comédiens faire ce qu'ils veulent. Parce que puis, je lui avais dit, attends, il faut peut-être quand même avoir une conception du spectacle, quitte à changer. Et puis, il m'avait dit, oui, non. Enfin, Et alors, on avait commencé les répétitions, et chacun entrait en scène et sortait de scène quand il voulait. Et alors, ça se traduisait par ça, tout simplement. Les gens entraient en scène à partir du moment où ils avaient une réplique, puis ils ressortaient quand il n'y avait plus de réplique. C'était complètement absurde.
Ah, mais c'est marrant parce qu'on n'en a jamais parlé aussi directement, Roger et moi, mais moi aussi, c'est vraiment... Moi, j'ai fait une école qui s'appelle Philippe Gaulier, à Paris.
Où a été aussi Yolande Moreau, si je ne m'abuse.
Yolande Moreau, oui, entre autres, ouais, exactement. Mmh. Et c'est une des choses que j'ai vraiment dont je me souviens vraiment de ça. Il parle beaucoup de jeux majeurs et de jeux mineurs, dans le sens où quand on joue en majeur, ça veut dire par exemple je suis en train de parler ou vraiment c'est mon moment de jeu. Mais le jeu mineur, c'est je suis sur scène, j'observe, je vois mon partenaire jouer. Ça veut pas dire que je suis pas en train de jouer, je suis toujours mon personnage et tout, mais je suis il appelle ça en mineur, c'est-à-dire en retrait, en train de regarder mon partenaire, je veux dire ah là là, il est bon quand même. Si j'interviens maintenant, eh ben je vais casser son jeu les gens ils vont pas dans le public, ils vont pas m'aimer. Alors que si j'attends, je laisse faire son numéro et après tac, je vais en mettre une petite couche en plus. Lui il va me regarder, il va dire ah l'autre il est bon aussi, je vais rajouter une couche et hop c'est une espèce de compétition sympathique qui fait que le spectacle.
Et Bondy par exemple disait il faut savoir se passer le relais. Mm-hmm. Ne pas être toujours en train de faire des choses. Il y a hop, tiens, c'est l'autre qui fait ça à ce moment-là. Ouais. Alors, on a des réactions, bien sûr. Ouais. On observe et tout. Et puis après, c'est l'autre. Puis après, mm-hmm. voilà.
Donc, ça crée une émulation constante.
Ça ne brouille pas. Ça, voilà.
Et, par rapport à, et par rapport à la forme de cette pièce qui était à la base une nouvelle, je crois.
Oui, c'était une nouvelle.
Voilà. Il y a cette mise en abîme. Vous parliez au début dans l'entretien, le trac, l'apprentissage du mot, des répliques. C'est une mise en abîme de votre métier. Ça, c'est jubilatoire à interpréter, j'imagine.
Ah ouais. Bon, c'est une nouvelle, mais qui a été adaptée déjà par Tchekhov en pièce de théâtre. Et puis qui, après, nous, on s'est amusé à réadapter encore, mmh. et avec bien sûr Robert Bouvier.
Pour en faire une fantaisie.
Pour en faire cette fantaisie. Oui, mais déjà, la pièce de Tchekhov, elle parle, c'est une mise en abîme, parce que ce vieux comédien, Svetlovidov, il se met à jouer des extraits d'autres pièces dont il se souvient. Oui. Et nous, on a rajouté une autre couche de mise en abîme où on reparle de comment on joue certaines scènes du Chant du Cygne. Mais si en fait on l'a joué en changeant un détail par ici, un détail par là, si on met la lumière comme ci, comme ça, le son. Ah, puis mon personnage, en fait, au lieu d'être un souffleur, ça pourrait être un régisseur pour que ce soit plus accessible. Et puis on essaie de montrer ce cheminement qui est normalement un peu caché dans les salles de répétition, en le théâtralisant, bien sûr, parce que l'idée, c'est que ça en fasse un spectacle. Mais ouais, c'est toujours jouissif, déjà parce que c'est amusant à jouer, cette forme de non-jeu où tout d'un coup, je joue un comédien qui doit jouer son rôle. Et aussi, c'est agréable parce que le public aime beaucoup qu'on lui montre ce petit côté de coulisses, qu'on lui ouvre un peu les portes de notre salle de répétition.
Il y a un prétendant d'entrer dans la famille, peut-être.
Ou en tout cas de découvrir comment ça se passe. Même si c'est très théâtralisé, quand même.
On est vraiment dans l'imaginaire. Ouais. On joue, par exemple, sur le fait qu'on brouille des pistes. On ne sait plus à certains moments si c'est le comédien qui joue ou qui parle, ou si c'est le personnage. Mmh. Alors ça, c'est rigolo à faire aussi, parce qu'on passe du personnage à sa personne.
Mais je dirais, en plus de tout ça, là où Robert Bouvier avait vraiment envie que ça prenne une autre dimension, c'est que parfois c'est en effet nous qui prenons le contrôle sur le spectacle et qu'ils ont on aimerait de la lumière différente. Mais il y a beaucoup de moments aussi dans la pièce où tout d'un coup c'est comme si le théâtre lui-même avait une espèce d'âme et nous dicte des choses. Et tout d'un coup ça peut être une lumière qui s'allume, on ne sait pas d'où elle vient, comme si cet endroit était un peu magique, habité, a vraiment une âme. Et nous-mêmes, on se laisse emporter dans ce tourbillon-là. Mmh. Et on ne sait plus, au bout d'un moment, qui a le contrôle. Est-ce que c'est ce lieu?
Des choses qui apparaissent tout à coup. Robert insistait beaucoup sur la magie du théâtre. Mmh. C'est deux personnages qui sont, deux comédiens ou deux personnages, qui sont sur le plateau et puis qui découvrent des choses, soit tout le temps. Il y a tout le temps une nouvelle chose qui arrive et on découvre ça.
Et vous pouvez me parler du travail avec Robert, justement?
Oui.
Qui veut commencer? Ah, oui. Ben, Roger, Adrien.
C'était bien. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que il avait un projet, mais un projet précis, mais qui a évolué pendant tout le travail. Et il était très ouvert aux propositions qu'on faisait. C'était pas voilà, maintenant tu fais ci, maintenant tu fais ça. Et même au niveau des textes, par exemple, tous les textes qu'il réinterprète sur scène, il avait amené un certain nombre de textes. On en a pris peu, d'ailleurs. Et il nous a laissé amener tous les textes que nous, on avait envie de jouer. C'est-à-dire qu'il y avait... Dans la pièce de Tchekhov, d'ailleurs, il joue le roi Lear. C'est le seul extrait qui est dans la pièce. Mais sinon, après, moi, j'avais envie de jouer des choses, des trucs, un extrait de Schweik, par exemple, même du Robert Lamoureux, Victor Hugo. Victor Hugo. On voulait parler aussi, j'avais envie de parler de l'engagement au théâtre. Et puis, parler de l'engagement au théâtre, c'est... Ça peut être vraiment très, très emmerdant et tout. Alors, j'avais trouvé un texte de Victor Hugo où il est à la fin de sa vie Et il dit, oui, on m'a dit, maintenant, arrête un peu tes trucs, maintenant, prends du ventre, fais du jardin et tout ça, et tu t'en fous. Et il finit en disant, non, l'humanité souffre, la grande brèche du progrès est ouverte, la mêlée des méchants écrasant les bons est plus furieuse et plus noire que jamais, je mourrai combattant. Alors, le fait de jouer cet extrait, ben, ça parle de l'engagement au théâtre, même si c'est pas, ça ne s'adressait pas au théâtre, puisque là, c'était la littérature. Mm-hmm. Mais c'est bien de dévier comme ça pour pas emmerder les gens avec des théories.
Adrien
Sur le travail avec Robert Bouvier, ouais, c'est ça qui était... Il a vraiment cultivé cet équilibre qui est assez difficile à tenir entre une vision très claire du spectacle qu'il voulait monter et vraiment l'âme du spectacle et c'est vraiment lui qui l'a apporté, quoi. Il avait vraiment un plan, il savait qu'est-ce qu'il voulait qu'il se passe. Et de l'autre côté, une grande liberté qui a été laissée à nous, mais aussi à tous les créateurs qui étaient là en salle de répétition. Musique, la composition, la vidéo, le son, la lumière, les costumes, la scénographie. C'était vraiment un travail d'équipe.
Donc, on a basé quand même toujours tout, enfin moi je base toujours tout, de toute façon, le théâtre, sur le plaisir du théâtre. Il faut qu'on trouve, même si les répétitions sont... parfois fastidieuse, difficile, douloureuse, parce que on cherche, on doute et tout. Mais après, il faut que ça aboutisse au plaisir, quoi. S'il n'y a pas de plaisir sur le plateau, il n'y a pas de plaisir dans la salle. Moi, je vois trop souvent des spectacles où c'est un travail bien fait. Il n'y a rien de pire que ça, quoi. Un travail bien fait. Ça veut dire que c'est laborieux.
Il n'y a pas d'aspérité.
Eh oui, il n'y a pas de folie, il n'y a pas de... D'ailleurs, dans tous les arts du spectacle, je regarde, je pense aux clowns, aux fil-de-feristes, aux trapézistes et tout ça. Il faut toujours que le public ait l'impression que ce qu'il voit se dérouler, c'est facile à faire. Mmh. Il faut que ce soit élégant, il faut que ce soit léger, pas que ce soit un truc laborieux. Mais ça demande effectivement beaucoup de travail. Mais quand il est transcendé, tout ce travail, après, il n'y a que du bonheur, quoi. Et puis c'est formidable d'entendre les gens après venir, après le spectacle. Oh là là, quel bonheur, c'est un métier formidable.
Et peut-être que je tire une conclusion hâtive, mais d'après ce que j'entends, ce que vous dites de ce spectacle, ça vous permet d'avoir une relation organique avec les mots aussi.
Ah oui. Oui, oui, bien sûr, avec les mots, avec tout. Ben là, en fait, là, c'est, par exemple, on parlait de cette rencontre entre générations. C'est vrai que et de ce qu'on apprend les uns des autres. Roger, c'est un vrai amoureux des mots, des textes. Moi aussi, c'est une des choses qui m'a fait venir au théâtre. Mais je viens plus de l'école de l'improvisation, du clown, de se laisser aller dans l'instant. Et il y a beaucoup de ces moments-là aussi dans le spectacle où tout d'un coup, c'est vrai que les citations, les Victor Hugo, le Shakespeare, ils sont beaucoup laissés à Roger et moi plus non. Espèces de moments qui sont faussement improvisés parce que maintenant c'est écrit, parce qu'on l'a travaillé. Mais c'est cette balance-là aussi. Pense que je m'éloigne de la question, mais oui.
On s'agite à côté de nous, alors un regret, oui. Roger Yenly, Adrien Guigax, merci beaucoup. Et merci, bon spectacle, bonne représentation ce soir. Merci pour cet entretien.
Merci à vous. Merci beaucoup. Ah oui.